En 2007, Nicolas Cage ira jouer pour Rob Zombie dans un rôle qui est un petit peu particulier. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
What?
I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his face off.
Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui parle des films de Nicolas Cage. Et aujourd'hui, on a un petit épisode spécial pas piqué des hannetons juste pour vous. Parce qu'on va pas parler vraiment d'un film, mais d'une fausse bande-annonce.
D'une expérience, j'ai envie de dire.
Oui, bah, c'est exactement ça. De l'expérience Grindhouse. Et on va parler de la contribution de Rob Zombie à cette expérience Grindhouse.
Oui. Bonjour Alexis, tout d'abord.
Salut Julien, pardon. C'est vrai, je suis tellement excité par ce truc-là que je suis juste parti dedans.
C'est un épisode spécial à tout point de vue. On ne se dit pas bonjour et on ne se respecte plus. Okay, oui, bah écoute, t'as un peu dépeint la situation dans laquelle on est. Donc Grindhouse, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un double film, on va dire, qui fait justement écho à ce qui se faisait à une période justement avec ces DVD qu'on appelait double feature, où il y avait deux films dessus. Et exact. Il se trouve que là, c'est les deux films en question sont donc Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino et Planète Terreur de Robert Rodriguez. Mais non content de nous offrir deux films pour le prix d'un, enfin pour le prix d'un, ça je sais pas à l'époque à combien c'est vendu, mais ils ont aussi décidé d'incorporer plein de petites fausses bandes annonces pour des films, des bandes annonces un peu dans le style des vieux films, hein, tous les segments et même les deux premiers films là dont j'ai parlé font référence en fait le Grindhouse, donc c'est une période je sais pas exactement quand mais
les années 70-80
avec des films de pure exploitation
gritty et un peu borderline violent machin
gore du cul tout ce qui fait un bon film et il se trouve que que dans la liste des segments, donc on aura Machete, qui est quand même assez connu parce qu'il est, c'est devenu ensuite un vrai film, un film long, même qui a eu droit à une première suite et qui normalement doit avoir une deuxième suite, mais qui a un peu disparu des radars.
C'est pas quand, quand Robert Rodriguez arrivera à trouver de l'argent.
C'est ça. On a eu Don't de Edgar Wright, on est sur un casting assez sympa. On a eu Thanksgiving de Eli Roth. Voilà, on continue dans le... De toute façon, c'est Edgar Wright moins, mais on va dire que les Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, Eli Roth, ils sont un peu souvent fourrés ensemble, quoi.
Ouais, Rob Zombie, tout ça, c'est les potes à Robert Rodriguez et Tarantino, quoi. Donc ils sont fait inviter dans ce truc-là.
Donc ensuite, on a Hobo with a Shotgun de Jason Eisner, qui est lui aussi devenu un film en 2011.
Film exceptionnel avec Rutger Hauer que j'aime, mais j'ai adoré ce film. Voilà.
je ne l'ai pas vu moi, mais bon.
Ah ouais.
Je me rappelle très la bande-annonce, mais le film en lui-même non. Et puis, celui qui nous intéresse aujourd'hui, donc Werewolf Woman of the SS, film de Rob Zombie avec Udo Kier, Sherry Moon Zombie, Sybil Danning et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Alors, de quoi ça parle ? Pour évoquer ça, je pense que le meilleur moyen, c'est de citer Rob Zombie. quand il a réfléchi, il avait deux idées. Donc, il voulait faire soit un film de nazi, soit un film de Women in Prison, des femmes dans les prisons. Donc, ce qui était quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque. Donc, il était bien évidemment. L'idée, c'était quand même d'en profiter pour faire des scènes de douche avec de la nudité et de vendre des films là-dessus. Donc il est parti sur les nazis. Il a fait ce choix-là. Et bon choix, j'ai envie de dire.
Ouais, y a rien à dire.
Généralement, quand, dans la vie, quand on a un doute entre deux choses, il faut toujours choisir les nazis.
Je vais pas me mettre derrière cette idéologie-là, parce que si on a un doute entre pas les nazis et les nazis, en général, il vaut mieux pas prendre les nazis. Mais ça, c'est...
Dans le cinéma, c'est différent. Voilà. Là, on a le droit.
Ok, très bien. Si tu veux.
Et donc ensuite, il nous parle de ses références, hein, qui sont quand même assez évidentes après en voyant le film. Donc on a Ilsa, She-Wolf of the SS, Fräulein Devil et Love Camp 7. Donc voilà, donc il nous explique qu'il a toujours été fasciné par ce qui lui semble être un des genres les plus bizarres. Et on sait que Rob Zombie, lui, le bizarre, il aime bien ça. Oui. Donc voilà, et après au niveau du casting, avant de parler de notre expérience avec le film, je trouve que le casting est assez marrant parce que donc on a Udo Kier qui quand même a joué dans Suspiria et dans tous les films de Lars von Trier en gros.
Oui.
Donc du coup, c'est marrant de le voir là-dedans. Bon, Sherry Moon Zombie, qui est, comme son nom l'indique, assez facilement la femme de Rob Zombie, qui a joué dans tous les films de Rob Zombie.
Absolument.
Et ensuite, on a Sybil Danning, et je ne sais pas si tu sais qui est Sybil Danning.
Non.
Tu devrais.
Non. Ah oui ?
Et oui, car on l'a déjà croisée, car elle faisait, elle faisait une voix dans Un chant de Noël.
Oh, d'accord, très
voilà.
Bien.
La galaxie Nicolas Cage, toujours autant présent. Et surtout aussi, c'est une habituée des films de la canon. Et elle apparaît dans le documentaire, et du coup j'en profite parce que ce documentaire est excellent, qui s'appelle Electric Bungalow, The Wild Untold Story of Canon Films. Et donc c'est un très très bon documentaire sur toute cette période canon, justement, qui est un peu dans la même ambiance que Grindhouse, où on va retrouver du pur film d'exploitation. Voilà, avec de l'action, de l'horreur, du gore et puis beaucoup de nudité, parce que ça faisait vendre. voilà, et maintenant que ceci est dit, quelle est ton expérience avec ce court segment?
Alors, j'arrive pas à savoir si j'ai déjà vu le segment au complet, c'est-à-dire que bon, après on s'entend, hein, c'est un segment qui doit faire, ça dure quoi, ça dure 7 minutes là, c'est une bande annonce.
C'est marqué quelque part, parce que j'avoue j'ai pas regardé.
Non mais tu sais, c'est une bande annonce quoi.
Pour moi ça dure 3 minutes,
peut-être
quoi.
15 minutes, ouais voilà, même
et
pas
encore.
Donc parce que
il est
possible
YouTube,
parce que je me souviens avoir fait
2 minutes
une
16.
soirée Grindhouse une fois, et il me semblait qu'il y avait justement toutes les bandes annonces à l'intérieur. Donc probablement je l'ai vu, mais tu vois, c'est pareil, genre Don't, je l'ai probablement vu, mais je m'en rappelle pas assez.
Ça, je m'en rappelle pas, par contre. Enfin, je relise le CM6 pour voir, mais celui qui m'a marqué,
probablement je l'ai vu, et on s'entend que la chose qui me frappe le plus à la tête, c'est clairement Nick Cage en Fu Manchu avec costume de original chinois et cette espèce de moustache dégueulasse, mais à part ça pas plus. Donc je suis en vrai très j'ai hâte, tu sais, je suis très content de le revoir là. C'est sûr que ça va pas prendre longtemps là. Ça devrait être correct. Et puis voilà, donc je sais pas, quelle est ton expérience à toi là-dessus?
Ouais, on parlait de ceux qui nous avaient marqué ou pas. C'est vrai que moi je me rappelle très bien de Machete, je me rappelle très bien de Hobo with Shotgun, et je me rappelle très bien, assez bien de celui-là. Je me rappelle surtout justement de l'apparition de Nicolas Cage, mais si globalement je me rappelle assez bien de celui-là, donc oui, je sais que je l'ai vu, parce que c'est Hobo with Shotgun qui est pas présent dans toutes les versions, mais que j'avais vu aussi, donc voilà. Mais ouais, effectivement, celui de Galwhite et de Eli Roth, je me rappelle pas trop, mais après bon, faudrait que je revoie. Ça n'est pas très long, donc voilà, 2 minutes 16, donc vous pourrez quand même regarder entre-temps, regarder quand même le truc sur YouTube pour pouvoir nous suivre, parce que ouais. Bon, voilà, 2 minutes 16, vous n'avez pas trop d'excuses quoi quand même.
On pourrait mettre un gros blanc de 2 minutes 16 pour vous laisser y aller.
Ouais, bon, vous savez utiliser le bouton pause.
On va pas le faire.
Mais voilà, moi je me rappelle surtout de la tête de Nicolas Cage avec une fausse barbe et une fausse moustache de qualité. Donc voilà, mais ça va me faire marrer, plaisir de le revoir quoi. En plus, peut-être que entre-temps, il y a des références qu'on qu'on va choper qu'on n'avait pas, qui nous était passé au-dessus à l'époque, je sais pas ça, donc allons-y.
Oui. Bah ouais, voilà, c'est parti.
À noter que l'intro est déjà bien plus longue que la durée du segment dans Grand House, donc donc voilà. C'est allez, on y va,
un
et on revient.
C'est spécial, voilà. Tout de suite. Bill Moseley. As the Allied forces draw closer, there is only one last desperate hope. Fu Manchu. And Nicolas Cage as Fu Manchu. I wanted Cinnabar. Cinnabar! To my liking! Et on est donc de retour après avoir regardé Werewolf Woman of the SS de Rob Zombie, la version extended.
Ah oui, parce qu'on est des professionnels. On a vu la version normale et après on a regardé la version extended en plus. Donc franchement, là, vous pourrez pas dire qu'on fait pas des efforts pour vous.
Donc pour les gens qui ne sont pas au courant de la différence entre les deux, la version normale dure à peu près 2 minutes 50. Alors que la version longue dure 5 minutes, soit deux fois plus de temps pour les gens qui sont forts en maths.
Ouais.
Ou pas.
Bah oui, 2 minutes 50 fois 2, ça fait 5 minutes, c'est bien connu.
Non, ça en fait 6, mais c'est pas grave.
Mais bon, pour ta défense, ça le fait plutôt 2 minutes 30, là, celle de base. Non mais voilà, c'est comme si on avait regardé un film de 2 heures et un film de 4 heures derrière, quoi.
Exact, la même chose.
Le même ressenti. Ouais, bah qu'est-ce qu'on peut dire de cette bande-annonce ? Déjà, ouais. Ça commence bien, parce que je me suis dit, ça commence avec une voix off et un texte à l'écran qui explique l'histoire, ça va pas plaire à Alexis, quoi.
Alors... Tout le monde connaît ma... tout le monde ne connaît pas. Certaines personnes connaissent mon dégoût, en effet, pour le texte en début de film, parce que ça veut dire que c'est un écueil de... Bah, c'est que t'as pas fait le travail pour le montrer, en fait. Mais après, là, on s'entend, c'est une bande-annonce, et c'est aussi fait exprès d'être mal fait. Donc, en vrai, moi, justement, ça me fait beaucoup rire, justement, d'avoir cette espèce de carton qui t'explique que pendant la Seconde Guerre mondiale, bah, les nazis essayaient de faire des... Non, que ce film est un achievement pour la...
Oui,
pour
voilà,
l'histoire du cinéma, comme quoi le plan d'Hitler est enfin mis à jour, comme si c'était un vrai, plan qu'il essayait de transformer.
Ah bah oui,
des gens.
On parle limite d'un documentaire, effectivement.
Oui,
non, mais après, le texte qui défile à la voix haute, c'est aussi un hommage aux vieilles bandes annonces et à ces vieux films dont cette bande-annonce se réclame, donc c'est pour ça aussi. Hein. Donc là, à ce niveau-là, on va pas trop en vouloir à Rob Zombie. Hein.
Oui, et surtout que bah, voilà, c'est Rob Zombie, puis j'ai l'impression qu'il y a plus de choses à dire sur Rob Zombie que sur cette bande-annonce, parce que bah, voilà, bon, c'est 4 minutes, on va faire comme d'habitude et on va essayer de vous donner un résumé de ce qu'on a regardé, quoi, si on est capable de se rappeler ce que ça disait.
Sachant, oui, voilà, qu'en fait, la plus grosse difficulté, c'est pas de se rappeler de ce qui s'est passé, mais c'est plutôt de comprendre ce qui se passe, parce que c'est un peu bordélique, ouais. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que oui, on a droit à quelques images d'archives au début, donc avec le texte qui défile. Et puis après, direct, première scène, on a le droit à une paire de seins en fond. C'est un motif assez récurrent. Hein. Et bah, là aussi, c'est un hommage au film, bah, notamment au film de la Canon. Hein. C'est pas pour rien qu'on a Sybil Danning qui est dans le film, elle qui a participé à beaucoup de films de l'époque, donc qui se vendait notamment en affichant de la sexualité, enfin plutôt de la nudité en tout cas.
Ouais, bah là, de la nudité, de la monster exploitation, c'est exactement ça, là, avec des monstres peu importe, mais en général c'est de l'exploitation soit de la sexualité, soit des races, soit des monstres. Enfin, il y a toujours quelque chose qui était là. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est dans le traitement de l'image. C'est-à-dire que dès le départ, on a cette espèce de d'image un peu washed out, qui est un peu délavée, sauf les couleurs rouges pour les croix gammées et tout ça, qui sont extrêmement pétantes, et on retrouve un peu ce côté... il manque juste du grain, quoi. Il manque juste du grain comme il faut, puis on aurait cette image très années 70, quoi.
Ouais, contrairement à peut-être... contrairement à Grindhouse, justement, le film Grindhouse, ils ont pas essayé là de refaire ça. On a quand même une image qui est plutôt HD.
Ouais.
Enfin, il y a le côté désaturé comme tu l'as expliqué avec sauf le certaines couleurs, donc le rouge. Il y a une grosse, les noirs sont assez poussés.
Oui.
Mais par contre, voilà, il y a pas, ils essaient pas de faire un grain un peu vieilli. Bon, voilà, c'est un choix visuel qui est intéressant. En dehors de ça, bah voilà, on a le droit quand même. On a à des gens qui parle à moitié allemand, moitié anglais, avec un accent du coup à couper au couteau. Donc, et puis vu que c'est des Allemands, que c'est des nazis surtout, ils passent beaucoup de temps à s'énerver. Hein.
Oui, voilà, c'est très caricatural de tout. Là, c'est des gens qui sont énervés tout le temps.
C'est des gens quand même très tendus.
Ouais, voilà. Et on apprend finalement le plan au début du général du Death Camp 13. Qui est apparemment un camp de concentration, qui veut transformer probablement les habitants du camp de concentration en loups-garous pour la force du Troisième Reich.
Ouais, pour renforcer l'armée allemande.
Et on a le droit justement à ce général qui gueule sur son assistant ou je sais pas quoi.
Sur ce scientifique, hein, c'est un...
Je sais pas si c'est le scientifique,
pas au début. Pas au début. On va dire que c'est le mec qui gère le projet, quoi.
Voilà. Et en lui expliquant que si jamais il réussit, ça veut dire que tout le Troisième Reich va tomber dans l'oubli et la décrépitude. Que c'est la dernière chance pour Hitler de gagner la guerre. Et c'est pas mal ce genre d'image où on a donc le général qui gueule sur son subordonné, entrecoupé avec de la nudité, des loups-garous, le scientifique qui essaye de faire en sorte que ça marche, avec des gens qui hurlent du sang, et on sait pas pourquoi, des images d'archives de... on sait pas pourquoi. On se doute pourquoi, mais je veux dire, des images d'archives, des vraies images d'archives de la Seconde Guerre.
Ouais, c'est aussi un hommage au film qui utilisait des images d'archives ou qui réutilisait des images d'autres films aussi, parce que c'était moins cher, tout simplement. Oui. Pour des scènes un peu d'action, des choses comme ça, voilà. Et puis on a aussi un autre personnage, donc on a... comment il la présente, mais on a une femme, une dignitaire nazie, je sais pas exactement quel est son rôle, mais qui est une référence quand même, je pense, je sais plus comment s'appelle exactement le film, mais
She Devil of the SS.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ils se font appeler les She Devil, donc je suppose que ça doit avoir un lien. Ils sont censés être des vampires, je crois.
Ouais, on voit pas beaucoup dedans, mais après...
C'est clair,
voilà,
dommage.
Cette femme habillée en tenue nazie, mais un peu très, très, très cuir latex. Forcément, donc, la figure à la fois nazie et puis il y a côté sexualisé en plus.
Ouais.
Voilà, ils ont rajouté un élément en plus, c'est qu'en dehors de la tenue en latex, c'est une espèce de cellophane, là, je sais pas, c'est très bizarre. Qui est censé donner un... Ça fait un petit côté science-fiction vu des années 60, là.
Ouais, bah ouais.
On va dire que ça fait des costumes à pas cher. Hein.
Bah, de toute façon, c'est pas comme s'ils en avaient besoin. Hein.
Donc voilà, donc il y a ce personnage-là qui arrive, qui nous fait un peu de torture. Et puis après, là, on voit l'apparition du loup-garou.
On a le droit à un moment musical... alors zut, est-ce que c'est
c'est la femme
c'est,
de
c'est la femme arabe zombie, hein.
Donc Sherry Moon,
Sherry Moon zombie, ouais, voilà. Qui chante sur une scène dans une scène qui est un peu rien à foutre ici, j'ai l'impression, qui est juste là pour le fun avec le loup-garou qui est en train de jouer du piano.
Elle est que dans la version extended, ouais.
Oui, voilà, ouais, déjà. Et avec le loup-garou qui joue du piano, alors que, oui, alors, bah, on en parlait un peu en voix off, c'est-à-dire que dans la version normale, on nous présente en fait le loup-garou vers la fin de la bande-annonce, alors que dans la version extended, le loup-garou apparaît à ce moment-là, ce qui fait que, bah, en gros...
sans être présenté, d'ailleurs.
Voilà, sans être présenté, il est juste en train de jouer du piano.
Genre, c'est normal, c'est un truc assez classique, des loups-garous qui jouent du piano.
Voilà, donc c'est un peu étrange, on le reconnaît.
Mais bon.
Ils ont eu du fun, c'était l'objectif, voilà, je suppose.
Je sais pas si l'idée était d'avoir quelque chose de très logique, mais bon. Mais effectivement, on a ce loup-garou voilà, qui est plus un costume que du maquillage, au final.
Ah ouais, il y a un peu de maquillage, il y a beaucoup de costumes.
Ouais, il a... Il a... un visage très... Ça fait très méchant de Scooby-Doo, quoi.
Oui, voilà.
Tu peux très, très bien imaginer voilà, se faire démasquer à la fin, et puis en fait, depuis le début, c'était le général nazi, quoi.
c'est
mais,
ça.
mais ce n'est pas ce qui se passe. Et enfin, parce que quand même, on est là pour ça. Pour l'instant, on vous a pas parlé de Nicolas Cage, mais en fait... Alors, j'allais dire que c'est peut-être l'apparition la plus courte de Nicolas Cage dont on a parlé ici, mais en fait non, pas du tout, parce que on a parlé de Nicolas Cage dans
Fast Time à Montréal,
où il apparaissait vraiment peut-être 2 secondes, 3 secondes. Donc là, il apparaît plus de 3 secondes.
Mais alors ça dépend de la version dans laquelle tu regardes. C'est dans dans la version basique, il apparaît probablement autant de temps que dans Fast Time à Montréal.
Quand même plus.
Je suis pas sûr.
Et tout.
N'oublie pas, faut compter les 3 apparitions de Nicolas Cage dans Fast Time.
Ouais, mais les 3 accumulés, ça fait peut-être 10 secondes, quoi. Là, il y est 20 secondes.
15. Mais non, dans la version basique, il est là 5 secondes. Il rigole, il dit un truc, puis c'est fini. Hein.
Ouais, mais tu sais, quand il rigole longuement, quand même. Hein. Enfin bon, nous, on va parler de version extended parce qu'on veut justement toujours plus de Nicolas Cage. Donc il nous est présenté comme étant Fu Manchu. Et bah écoute, est-ce que je te laisse peut-être le décrire l'apparence physique de Nicolas Cage dans ce film.
Alors c'est clairement de la. Alors comment expliquer Fu Manchu à la base c'est un personnage de littérature qui a été créé en 1912 dans une série de romans et qui est comment dire vous voyez le stéréotype du chinois méchant avec la petite barbe les cheveux longs dans une robe rouge c'est ça c'est Fu Manchu. Donc faut juste imaginer Nick Cage qui joue Fu Manchu. Et voilà. c'est vraiment de l'appropriation culturelle asiatique, mais purement assumée. Là, il y a pas de, c'est pas. Ils essayent pas de faire quelque chose.
Vu le pitch et je me rappelais à peu près de la bande annonce. Je m'attendais limite à pire. Et je trouve que au moins il a la décence, on va dire, de pas pousser le truc lui de son côté dans son jeu. Voilà, il prend pas d'accent par exemple.
Oui.
Il parle avec sa voix. Il essaye. En fait, le personnage de Fu Manchu est ce qu'il est, mais lui, il fait comme s'il était Nicolas Cage avec une moustache en fait. Hein.
Parce que.
Ce qu'il a été plusieurs fois dans sa carrière, mais il essaye pas de voilà, il essaye pas d'imiter quoi que ce soit en fait.
C'est pas Christopher Lee quand il jouait Fu Manchu dans les films.
Ouais.
Puis ça, c'était un petit peu plus. On va dire sur la ligne, quoi.
Ouais. Bon, sur la ligne, voire plutôt de l'autre côté, quoi. mais là, ouais, justement, donc ça, c'est image, c'est ça l'inspiration, mais bon, il décide de s'arrêter un peu avant la ligne, quoi. Donc j'ai eu un petit soupir soulagement, quand même.
Non, mais t'as tout à fait raison quand tu dis ça. C'est vraiment Nicolas Cage avec un skin de Fu Manchu. C'est pas Nicolas Cage qui joue Fu Manchu. Et au final, je pense que ça aide à garder ça dans une satire slash goof thing, genre...
Ouais, je sais pas si ça aurait pas été pire de prendre un acteur asiatique, justement.
Je sais pas. Mais il faut reconnaître que c'est surtout parce que Rob Zombie voulait travailler avec Nick Cage. Quoi. Il voulait quelqu'un de complètement
oui, puis...
barré, donc il savait très bien vers qui aller. Quoi.
Ouais, puis la scène est assez courte, en fait. Bon, il dit quelques mots au début où il parle de... Enfin, je comprends rien de ce qu'il dit.
De cinnamon, ouais, on dirait.
Il n'a pas forcément pris d'accent typé asiatique, mais en tout cas, il a pris un accent. Je sais pas ce qu'il a pris, mais bon, vous connaissez Nicolas Cage et les accents. Hein. C'est quand même... Il en a plein dans sa besace, quoi. qu'il invente au fur et à mesure. Donc, je comprends pas trop ce qu'il dit. Par contre, il y a la moitié de son temps d'apparition où c'est lui en train de rire. Et
ouais.
Je pense que c'est bien l'image qu'avait en tête Rob Zombie quand il s'est dit, il me faut Nicolas Cage. C'était juste pour avoir Nicolas Cage en train de rire, quoi.
Non, puis voilà. Puis après, c'est quoi dire? Mais, par exemple, si tu vas sur la page de Wikipédia de Fu Manchu, littéralement sur la page française, là, sur le côté, dans caractéristiques, c'est écrit génie du mal. Donc, tu veux un mec
oui.
qui rigole comme un con, et tu veux Fantomas, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, maintenant,
terrible,
je veux voir Nicolas Cage jouer Fantomas. Ça, c'est. c'est autre chose, mais.
Ce qui est terrible, là, c'est que je revois les images, et donc il a une fausse moustache, hein, avec les moustaches qui redescendent bien.
Ah, puis tu le sais que c'est une fausse, hein. Ça, s'il y a
oui,
pas
oui.
de.
Ah, ça, il n'y a pas de doute. Mais surtout, en fait, vu que tu. Quand il rigole, en fait, vu qu'elle c'est une fausse moustache,
ouais, ça bouge.
elle descend pas de manière naturelle, en fait. Donc les deux pointes de la moustache, on va dire, qui sont chaque côté,
ouais.
chacun des côtés de la bouche, en fait, ils se rejoignent un peu
ouais.
au niveau du bouc. Et du coup, c'est vraiment très peu naturel parce que limite il a les poils de la moustache qui se croisent devant la bouche, quoi, quand il lève la tête.
Puis en
ça
plus,
va pas du tout, quoi.
Avec parce que là on arrive justement dans les moments où Nick Cage commence à avoir des problèmes capillaires avant qu'il s'est clairement mis des plugs pour refaire quoi. Du coup t'as l'impression qu'il est
ouais.
aussi en train de porter une perruque qui tient pas tout à fait. Donc c'est le look parfait pour c'est cheapos, puis ça passe super bien. C'est exactement ce qu'on veut. Puis je tiens quand même à dire qu'on a passé plus de temps à parler de la moustache de Nicolas Cage que du film.
Oui, bon,
la bande-annonce. Mais en plus,
parce
de toute façon...
C'est quand même ça qui nous intéressait.
La bande-annonce se termine là-dessus, puisque j'aime le plus dans tout ça, c'est à quel point je pense que Rob Zombie a dû se dire « Je veux Nick Cage en Fu Manchu, je vais juste trouver un moyen de le ramener dans l'histoire. » Parce que la manière dont il le ramène, c'est juste... les Allemands qui sont en train de se faire tirer dessus par on sait pas qui, on sait pas si c'est les Alliés, on sait pas si c'est les loups-garous qui se sont révoltés, c'est pas grave. Et là, on a une voix off qui dit le seul espoir des Allemands, c'était Fu Manchu. Et puis déjà,
c'est
okay,
vrai que ça n'a vraiment aucun sens. Hein.
C'est juste l'apparition de Nick Cage qui arrive, puis voilà, bon.
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi qu'on a que dans cette version extended, c'est que justement, cette fois, avant qu'il apparaisse, on a le général nazi du début qui dit qui, de manière très apeurée
Fu Manchu.
Donc voilà, ça ajoute un peu au côté dramatique de l'apparition de Nicolas Cage. Donc voilà la valeur ajoutée très claire de cette extended version que vous pouvez aller voir sur YouTube. Donc bon, écoutez, 5 minutes, vous pouvez quand même aller vous faire le plaisir d'aller regarder ça.
Mais oui, je pense ouais. que tu as utilisé un mot qui est tout à fait véritable, c'est le mot plaisir. C'est que, parce que là, on parle, on n'arrête pas de dire que ça paraît un peu. Pas que c'est mal foutu, que c'est mal branlé, que c'est mal. Non, c'est pas tant mal filmé, c'est en part avec ce que Rob Zombie fait. Mais
ouais,
c'est plus dans le kitsch.
Filmé, quoi.
C'est plus dans le kitsch. Oui, c'est vrai que Rob Zombie, c'est pas forcément super bien filmé souvent.
Non, mais ça bouge, quoi, quand même. Hein.
Voilà. Mais c'est un plaisir à regarder, quoi. Bon, après, c'est un plaisir à regarder
ouais.
parce que c'est 5 minutes et que c'est une fausse bande-annonce. Je suis pas sûr si c'était un vrai film, ça serait plaisant.
Oui, bien sûr.
Mais...
bien sûr. Bah, c'est pas pour rien que celui-là n'est pas devenu un vrai film derrière. Hein.
Oui.
Enfin, c'est peut-être pas la seule raison, mais bon. Mais ouais, Rob Zombie, on va dire que... il a une façon de filmer qui est là aussi pour donner un peu une ambiance cracra et tout. Et il y a certains de ses films de sa filmographie où justement, il y a un peu la magie qui opère. Il y a tous les éléments sont réunis et ça fait des grosses réussites. Et on va dire que quand c'est moins réussi, c'est plus dur de passer outre la façon de filmer, je trouve.
Oui.
Il a oui. un peu ce défaut-là. C'est tellement un peu... Voilà, il y a tellement certaines gimmicks ou une façon un peu spéciale de filmer que bah, quand... quand ça s'harmonise avec l'histoire, avec les acteurs, avec les personnages et tout, bah, ça marche super bien. Et puis le reste du temps, ça peut énerver encore plus, quoi.
Après, il y a aussi ce côté un peu étrange de... tu sais, c'était en 2007, donc c'était pas mal. C'était un peu vers le début de... On commence à utiliser que des caméras numériques. Et ce côté est très... on ne sait pas se servir de caméra numérique, en fait. On s'en sert comme des caméras normales, puis c'est un peu ce... On parlait tantôt du fait qu'ils n'ont pas mis de grain par-dessus, mais du coup, ça run un peu cette image très froide, même si ça passe, c'est un peu dommage. Bah, mais bon, ça, après, c'est des considérations techniques qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le fait que c'est un trailer. Là, ça a été tourné probablement en une semaine et demie. Cage a dû venir un après-midi entre deux films, puis voilà, quoi. Donc, c'est pas... Je m'attends pas à avoir une qualité incroyable non plus, quoi. C'est déjà bien qu'ils aient sorti un truc comme ça, quoi.
Oh, bah, de toute façon, voilà. Je pense que tout le monde sait, dans l'équipe, s'est bien amusé à le faire. Et puis nous, on s'amuse bien à le regarder, donc c'est la parfaite petite pastille.
Pour terminer un peu cet épisode spécial, j'aimerais juste pour toi, même si on va pas forcément passer trop longtemps là-dessus, c'est de tous les trailers. Est-ce que t'as revu les trailers? Est-ce que t'as juste regardé Werewolf Woman of the SS, ou est-ce que tu t'es fait plaisir en regardant tous les trailers?
J'ai juste regardé celui-là.
Ah, dommage. Parce que j'allais te demander c'est quel que tu préférais de tous les trailers. Parce que je me suis fait ce plaisir-là de re-regarder tous les trailers.
C'est vrai que bon, pour révéler les coulisses, j'ai un peu regardé ça juste avant là, d'enregistrer, donc j'ai cherché à l'intérieur du film lesquels étaient. Non, par contre, ça m'a donné envie de regarder Grindhouse.
Oui.
mais je me rappelais pas qu'il avait un grain aussi sale, enfin qu'il était aussi typé visuellement, mais
ça dépend des deux films. Bah, tu sais, parce que Grindhouse, c'est Planète Terreur et Death Proof.
Oui, je parle, pardon. Quand je dis Grindhouse, en fait, je sais pas pourquoi, je me mélange tout le temps. Mais moi, c'est juste Planète Terreur.
Ouais, Planète Terreur, un gros grain. Death Proof est quand même moins.
Oui.
Grainy.
Bah, Death Proof, je l'ai vu plusieurs fois, j'adore.
Bah, c'est surtout Tarantino, donc il sait se démerder. Mais c'est ça, c'est pareil. C'est un peu Robert Rodriguez, justement, et Planète Terreur. Je me permets de faire une petite parenthèse, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. C'est les moments où il commençait à se servir juste de caméra. Numérique, puis je pense que pour balancer ce côté très froid, il a voulu mettre du grain dedans, puis il a mis beaucoup de grain, donc c'est un peu c'était pas génial.
Ouais, bah après c'est son style, je pense qu'il était à fond dans le concept, alors que Tarantino il était peut-être plus dans la logique de faire un film dans ce style là mais moderne, quoi.
Ouais,
parce que au niveau de l'image et tout, il n'a pas essayé de copier, en fait, du tout ce qui se faisait à l'époque. Il a vraiment fait un film qui est beau à voir. Enfin, l'autre est sympa aussi, mais c'est une pastiche, quoi. Là, il n'était pas dans cette... sur l'aspect visuel, en tout cas, Tarantino n'était pas dans cette logique-là. Même dans sa façon de filmer et tout, il n'a pas énormément altéré sa façon de filmer.
Oui.
Et du coup, ça fait que c'est un film qui est peut-être un peu plus facile à revoir. En fait, il est moins imprégné de tout l'objet Grindhouse, quoi. C'est aussi un film en lui-même.
Oui.
Mais après, sur les bandes annonces, donc ouais, je les ai pas revues. Par contre, bah, moi, ce que je me rappelle, c'était qu'à l'époque, c'est quand même beaucoup celle de Machete qui m'avait fait forte impression, que j'avais trouvé ultra efficace dans son découpage et tout. Donc dis-moi toi, parce que au final toi tu dis que tu les as revus, donc
je les ai revus, puis j'avoue que j'ai une immense passion pour Don't, qui est la contribution d'Edgar Wright, qui ressemble à déjà parce qu'il y a tout le monde dedans, Jason Isaac, Simon Pegg, Nick Frost, il y a même une voix par Will Arnett, blablabla, enfin il y a tout le monde dedans, puis c'est juste une espèce de vieux films d'horreur dans une maison où les gens n'ont pas le droit de parler. Ça s'appelle Don't, puis c'est...
Ça me rappelle quelque chose.
Je vous conseille juste d'aller voir, parce que je vais pas vous faire une description du truc. C'est juste super drôle, puis je sais pas, c'est tellement pas mal tout ce qui est Edgar Wright en général, et un peu une lettre d'amour à un genre en particulier. Et ça, c'est tellement une lettre d'amour des films des années 70, des horreurs, films d'horreur des années 70, que je peux pas ne pas le mettre dans mon top 1, quoi. Puis voilà.
Ouais, puis bon, voilà, Cartwright, il y a toujours des trouvailles un peu visuelles et tout qui font plaisir. Je pense que s'imagine que cette bande-annonce ne doit pas déroger la règle.
Il a deux trois trucs qui fait qui sont très intéressants, mais c'est rien d'incroyable non plus. Mais c'est ça.
Oui,
ça.
Bah, si, c'est pareil. S'il a essayé un peu de copier un style un peu plus ancien, qui est à final assez loin du sien, parce que lui, il est très dans le découpage, très dans l'editing et tout, alors que c'était beaucoup moins le cas avant.
Ouais.
Peut-être qu'il s'est il a un peu effacé certaines choses de son style pour s'intégrer dans le projet, parce que sinon, ça, effectivement, son style fait très moderne, limite un peu YouTube. Enfin, c'est une génération qui passe beaucoup par l'édition pour faire passer de l'humour ou même des informations. Mais ok, bah écoute, ça m'a donné envie de les revoir, donc je pense que je me ferai quand même ce plaisir bah, à la fin de après l'enregistrement, les enregistrements du jour.
Exact.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Alexis?
Non, je pense que bon, après c'est un épisode spécial, donc ça sert à rien qu'on s'étale non plus. Donc déjà, je pense que j'ai l'impression qu'il est quand même assez long pour un épisode spécial, mais voilà. Donc non, c'est tout à fait correct.
Ce sera tout.
Ouais.
Et bah écoute, dès la semaine prochaine, on récupère notre style habituel d'épisode, hein, parce qu'on l'avait promis, donc on vous en avait parlé à la fin de l'épisode précédent. Donc on va parler de Next de Lee Tamahori.
Exact.
Et puis voilà, en attendant, je vous conseille de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Twitter, @CitizenCagePod, sur Instagram et Facebook, Citizen Cage Podcast, et puis bien sûr sur les plateformes de diffusion de podcasts, donc à la fois Apple Podcast, Spotify, Deezer, voilà, etc. Toutes les applications type Podcast Addict, voilà, on est partout. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir écoutés, puis à la semaine prochaine à tous. Ciao.
Bonne soirée.